j'aimerais bien savoir, dans un esprit un peu de synthèse, dans ce programme du CNR, ce qui a aujourd'hui le mieux tenu, et ce qui au contraire a été le plus démoli, le plus dégradé. Accessoirement, petite question à laquelle, ou alors je n'ai pas entendu, m'a échappé. Quel est le nom de cette, finalement, auteur des Jours Heureux, qui avait une super collection de documents et de... Merci de me répondre.
Non, je suis très content que vous donniez l'occasion de donner son nom. Je le fais dès que je peux et j'ai envie qu'on en parle. Mais il s'appelait Jules Merino, M-E-U-R-I-2-L-O-N. Il a publié un compte d'auteur, donc ça se trouve à la Bibliothèque nationale de France, mais pas ailleurs. Ses souvenirs, qui ont été publiés à titre posthume par sa femme. Donc jouait Jules Merillon, alias Léonard dans La Clandestinité, qui est un pur exemple de ce que je disais tout à l'heure. Il a un CAP de serrurier, c'est un copain du Nord, lui vient aussi du Nord, qui est à Lyon et qui lui dit « il faut que tu reprennes le service de la propagande diffusion parce que le responsable syndicaliste CGT, Édouard Rény, qui le coiffait bien d'être arrêté, septembre 42 », et Merillon lui dit « mais je connais rien à la presse », il dit « tu apprendras ». Et voilà comment il devient un véritable expert. Oui, bon, Jules Merillon, oui, il faut citer son nom. Alors, qu'est-ce qui a été détruit complètement? Par exemple, les nationalisations, le poids de l'État dans l'économie. Alors là, c'est même pas la peine de faire la démonstration. Si on a la notion même de service public, qui n'est pas absolument étrangère à ça. Donc, cette SNCF avec SF Connect, SNCF Connect, etc. Enfin bon, tout ça est lamentable, ça n'a pas tenu. Ce qui tient encore, par exemple, les retraites. Vous voyez, qu'en vous disant ça, en même temps, je suis provocateur, mais je veux dire, ça tient encore d'une certaine façon. Bon, on voit bien que les coûts sont sévères, que le discours est jamais que les retraites financées par répartition avec la solidarité intergénérationnelle, ça vaut le coup, que c'est bien. C'est autre chose, c'est-à-dire le monde a évolué, les gens vivent comme on sait tous jusqu'à 100 ans en parfaite santé, donc il est urgent qu'ils puissent travailler le plus longtemps possible, etc. etc. Donc ça tient encore. L'école, à mon avis, beaucoup moins. Beaucoup moins. En particulier, là, il y a eu vraiment le décennie noire, mais il y a eu déjà avant. Moi, j'ai enseigné dans le second degré jusqu'en 80. 15. Il me semble que j'ai vu à l'œuvre ce travail aussi patient de petit à petit, d'émiettement, y compris même de nos fonctions. Moi, quand j'ai commencé, de mon grand âge, j'avais 2-3 idées pédagogiques, pas grand-chose, et j'enseignais comme bon me semblait. Aujourd'hui, les gens ont des modules. Au fond, s'ils ne sont pas là, ils peuvent donner le module à quelqu'un qui fera la même chose. Je caricature, mais pas tant que ça. Tout ça sous l'œil d'une administration tatillonne qui en même temps considère pas ses agents. Enfin bref, oui, je m'étale peut-être un peu, mais je veux dire, ce qui n'a pas tenu du tout, c'est tout le secteur de l'économie et de la finance. Ça, c'est fini. Et ce qui tient encore, c'est ce qui est au fond peut-être le plus précieux aux yeux des gens, c'est-à-dire les droits qui ont été enfin reconnus au terme de décennies de combats, parce que c'est ça sur quoi je voudrais mettre l'accent. C'est-à-dire, ce qui se passe le 15 mars 1944, c'est jamais que le point d'aboutissement d'un combat qui part quoi des sociétés de secours mutuel. C'est long.
Alors, encore merci pour la densité et la clarté, parce que j'ai appris plein de choses en peu de temps. Oui, alors, je voulais revenir sur le consensus inhabituel. J'ai un peu travaillé en parallèle la résistance italienne. Il n'y a pas eu de consensus. C'est une règle, l'unanimité dans tous les comités de libération. En Italie, le CNR, c'était le CNL. Il y avait une partie, des partis qui étaient pour la République et l'autre, qui était encore un peu pour la monarchie. Donc ils n'ont pas pu se mettre d'accord, ils sont arrivés, au moment de la libération, sans principe de base. Donc c'est un accord qui est inhabituel au point de vue intérieur, vous l'avez dit, et même quand on regarde ce qui s'est passé ailleurs. Mais il est si inhabituel que pour moi il me laisse quelques doutes, parce que ce programme il a quand même une empreinte cégétiste, et vous l'avez, et du Parti communiste vous l'avez montré, hein, il a donné lieu après au... aux nationalisations et cette idée de prédominance de l'intérêt commun sur l'intérêt particulier, c'est pas très... c'est un peu gaulliste, mais c'est quand même plus cégétiste. Hein. Et on peut se demander s'il n'y avait pas une arrière-pensée des gaullistes, c'est-à-dire que laisser faire les choses pour aller, comme vous l'avez dit, le plus vite possible vers la restauration de l'État, mais essayer de rattraper ce qu'on a laissé. Alors moi, j'aurais été un tout petit peu plus vite que vous. Vous êtes parti de 2004 pour la falaise qui est minée à la base. Et si on regarde la sécurité sociale, au départ, la parité, c'était 2/3 des voix pour les salariés, 1/3 des voix pour le patronat. Dès le début des années 60, avec la réforme Jeanneney, on est arrivé 50-50, ce qui fait que le patronat, il lui suffisait de convaincre une petite marge des syndicats pour faire basculer de son côté. Et puis les nationalisations, là, vous venez d'en parler dans votre réponse, elles ont été assez vite vidées de leur contenu. Et je me souviens, je ne sais plus si c'est de Bocara ou de Herzog, il y a un bouquin qui s'appelle « Les béquilles du capital » qui montrait que finalement, les nationalisations, elles servaient au privé beaucoup plus qu'à l'intérêt commun. Et ça, ce bouquin-là, il date des années 70. Donc, est-ce que relativement rapidement, les gaullistes n'ont pas essayé de reprendre ce qu'ils avaient lâché, finalement?
Alors, d'abord, cégétistes, oui, c'est-à-dire les syndicats, comme aujourd'hui d'ailleurs, avaient des experts très remarquables, en plus trempés dans la hutte. Ça aide. C'est bien les experts, mais quand ça a une expérience sociale, c'est encore mieux. Et donc, c'était des gens qui, oui, qui ont influé. Le Parti communiste a poussé sa partition tant qu'il le pouvait. Mais je serais quand même plus nuancé. Pourquoi? Parce que quand je dis l'axe de gravité de la résistance s'est déplacé vers la gauche, c'est incontestable. C'est-à-dire que même les gens de droite de la résistance étaient beaucoup plus à gauche que beaucoup de gens de gauche aujourd'hui. Non, mais c'est, je ne dis pas ça comme un bon mot, je dis ça parce que c'est un fait. Donc on ne comprend pas bien le... Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, l'État-providence, on trouve aussi chez Attlee au Royaume-Uni. On le trouve à la même époque dans les États-Unis de Roosevelt ou de Truman. C'est-à-dire que, vous voyez, ça va bien au-delà du cégétisme. C'est-à-dire que tout ce qui est pensé libéral ou néolibéral à l'époque est inaudible. Hayek, qui publie en 1945, il est complètement inaudible. Hayek, aujourd'hui, on lui dresse des autels. Hein. Hayek, Milton Friedman, etc. On dit souvent, mais Churchill avait gagné la guerre, il avait été exceptionnel, ça, il a perdu les législatives, mais il avait distribué comme programme économique une espèce de résumé d'Hayek. Ça n'allait pas du tout aux électeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cégétiste, oui, mais moi, je dirais que dans l'ensemble de l'Europe et du monde occidental, l'idée que l'État pouvait intervenir et pouvait faire facteur de garant, etc., elle était très forte. Elle était donc pas seulement l'idée des communistes qui, eux, évidemment, étaient ravis de cette idée-là et auraient voulu pousser plus loin. Mais c'est là que c'est intéressant. Il y avait un rapport de force interne à la résistance. Le Parti communiste était puissant, mais il avait des adversaires alliés, en quelque sorte, puissants aussi. Claude Bourdet, c'est pas du tout un communiste. Si vous lisez L'Aventure incertaine, il dit, et il n'est pas le seul, qu'au printemps 1944, il se méfiait des communistes comme de la peste. Il avait l'impression qu'ils plaçaient leurs pions partout, etc. Il dit, rétrospectivement, je pense que c'était un fantasme. Enfin, on était nombreux à vivre dans cette hypothèse-là. Donc, vous voyez, c'est complexe. Parce que je suis allé à la SERP. Alors, sur le détricotage, oui, les ordonnances Jeanneney 67, ça commence le travail, bien entendu. Ce n'est pas tellement une question de général de Gaulle, c'est plutôt une question de positionnement politique de Gaulle. Le de Gaulle du RPF, puis de l'UNR, puis de l'UDR, etc. C'est évidemment un homme qui est beaucoup plus à droite que le de Gaulle de 1944-1945, sans l'ombre d'un doute. Donc les forces qui le soutiennent, ce n'est pas des forces qui trouvent que le programme du CNR appliqué dans son intégralité, c'est la meilleure des choses possibles. Donc oui, bien sûr, on commence à renier à ce moment-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est un patient travail. Alors, je rappelle ça dans le livre, les ordonnances Jeanneney. Mais enfin, on ne pouvait pas non plus, c'est un petit livre, c'est un livre de poche, on ne peut pas, mais je renvoie à des auteurs qui parlent de ça de façon très précise.
Bon, bonjour, merci pour votre intervention. Je voudrais poser une question à un enseignant lyonnais. Ce n'est pas une question anecdotique, c'est même douloureuse. Est-ce qu'on peut considérer maintenant qu'on connaît toute la vérité sur le rendez-vous de Caluire?
Non. Enfin, non. C'est un peu le masque de fer. C'est-à-dire que je ne sais pas quoi dire à ça. Les acteurs de ce rendez-vous, tous les gens qui de près connaissent les choses, les historiens les plus compétents, je pense à Jean-Pierre Azéma, Dominique Veillon, ou même ce genre, Pierre Péan, qui n'était pas historien mais journaliste, mais un bon journaliste d'investigation, sont à peu près tous d'accord sur la thèse d'une trahison, et d'une trahison qui aurait été l'œuvre de René Hardy. René Hardy, un vrai résistant, responsable de résistance fer, membre de combat, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail de tout ça, mais toute une série, il y a un faisceau d'indices convergents, pointe dans ce sens. Il n'y a pas de preuve formelle. Hardy a été deux fois déclaré non coupable après la libération dans des procès. Il a lui-même vécu assez misérablement jusqu'à la fin de sa vie, avait entraînant cette valise derrière lui. C'est tout ce que je peux dire. La seule chose qui est certaine, c'est que la Réunion est trahie. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Si vous lisez bien Pierre Péan, Vie et mort de Jean Moulin, l'esquisse des pistes qu'il est le seul à avoir travaillées et qui, à mon sens, sont intéressantes, c'est les pistes d'agents doubles infiltrés et qui causent des dégâts très considérables au sein du mouvement combat. Et l'un des grands opposants, un des mouvements les plus opposés à Moulin au printemps 43 est combat. Je ne dis pas que combat a donné Moulin, pas du tout. Je dis que par suite d'imprudence ou de noyautage qu'eux n'ont pas suspecté, notamment de l'Abwehr, le contre-espionnage allemand, il n'est pas du tout impossible que finalement on en soit arrivé à Moulin. Mais c'est tout ce que je peux vous dire, parce qu'il n'y a pas de preuve absolue irréfutable.
Parce qu'un récent documentaire sur la 13, sur LCP, expliquait effectivement que ça venait de Hardy, mais que ce n'était pas une trahison, mais plutôt une maladresse de sa part.
Alors, bon, on ne va pas entrer en détail, mais Hardy, pour donner un exemple, Hardy prend le train pour Paris le 8 juin 1943. Il est reconnu dans le train, reconnu par les portraitistes de la Gestapo, enfin de la section 4 du CIPOSD. Il est appréhendé à Châlons par Klaus Barbie. Klaus Barbie le détient. Puis René Hardy est remis en liberté. N'en dit rien à ses camarades. Ça, il y a des règles dans la clandestinité. J'ai dit, c'est un monde qui a des règles. Alors, il y en a qu'on peut suivre ou pas suivre. Je ne peux pas parler pendant 48 heures quand on vous torture. C'est une règle, mais on la tient ou on ne la tient pas. Mais quand on a été arrêté, libéré, dire qu'on l'a été, et donc on s'éloigne de vous, parce que vous sentez le soufre, on vous met au vert, ça, c'est une règle cardinale. Il ne la respecte pas. Et alors, ce qui est ennuyeux, c'est que cet homme qui ne respecte pas cette règle se rend à la réunion de Caluire à laquelle il n'est pas convoqué. Avec l'accord de son supérieur à combat, qui est Pierre Guillain de Bénouville. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments qui quand même posent problème. Mais je me garderai bien de dire, oui, c'est lui, et d'ailleurs ni Jean-Pierre Azéma, ni Dominique Veillon ne concluent comme ça, parce que c'est quand même lourd, l'accusation est très très lourde. Il n'y a pas de preuve irréfutable et qui ferait qu'on dirait, bon, ben, c'est comme ça, c'est lui. Mais il y a beaucoup d'indices. C'est
bizarre. Tu ouvres et tu prends les gars. Oui, pousse-le, pousse-le. Sur la route.
Vas-y.
Je vous en prie.
Non, c'est juste deux mots.
C'est bon.
Juste deux mots pour peut-être comprendre encore mieux cette unanimité. C'est que si j'ai bien retenu, ce qui a prévalu, ce qui liait vraiment tous les participants au Conseil national de la résistance, c'était cette idée qu'une fois la guerre terminée, on vivrait mieux qu'avant. Je pense que ça le but en fait. C'était de fonder une société où chacun vivrait mieux que.
Oui, mais vous avez 100 fois raison, cette unanimité, son socle, c'est exactement ce que vous venez de dire. Parce que il y a deux choses là-dedans. Il y a la guerre elle-même, ce qu'on appelle l'occupation, qu'on a ensuite appelé les années noires, 40-44. C'est une période de difficulté inimaginable pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire on vit vraiment dans le dénuement le plus extrême en France. Bon. Mais ça fait suite à des décennies et des décennies de vie très difficile. Donc les gens sont quelque sorte trempés dans l'acier, je ne sais pas comment dire. C'est vraiment des vies très dures. Quoi. Mais 40-44, c'est encore plus dur. Et je pense que les résistants, qui au départ n'ont pas de projet politique, mais qui l'élaborent petit chemin faisant au fil des mois, mais assez vite, avec une... se disent au fond peut-être qu'il y a quelque chose malheur et beau. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut franchir un saut qualitatif. Peut-être qu'on peut accéder à un autre type de société. En pensant à ce qu'a été leur passé à eux, même s'ils sont jeunes, ils ont connu des choses très difficiles. Quand j'ai écrit ma biographie de Lucie Aubrac, j'ai beaucoup travaillé la période de l'entre-deux-guerres, dont elle parlait très peu pour dire beaucoup de choses totalement inexactes. Et je me suis aperçu, ce dont elle n'a jamais parlé, qu'elle a littéralement crevé de faim. Entre 1932, 33 et 1937. Quand je dis, alors, crevé de faim, vous direz, vous exagérez, etc. Écoutez, je donne deux témoignages qui sont à l'opposé l'un d'autre, donc ça m'amuse. Elle demande en 1939, alors qu'elle a eu l'agrégation l'année d'avant, une bourse pour les États-Unis, pour faire des lettres de recommandation dans ce cas-là. Un vieux professeur de la Sorbonne, je dis vieux parce qu'il vient d'être à la retraite et il va mourir dans l'année, en 39, lui fait une lettre. Et moi, j'en ai fait des lettres de recommandation, beaucoup, monsieur Machin est très méritant, tout ça, bon, mais c'est normé. Enfin. Lui, il fait une lettre que je cite dans le livre, j'ai jamais vu une lettre comme ça. Il dit, j'ai eu beaucoup d'élèves dans ma vie, jamais j'ai eu une étudiante à l'égal de celle-là. Elle réussira tout ce qu'elle entreprendra dans l'ordre intellectuel. Et il y a une espèce de panégyrique de cette fille, il dit, mais c'est fou. Bon. Et il dit, comment mon attention a été attirée sur elle? Parce qu'elle était là, je la voyais dans l'amphi, et elle avait les joues creusées, je voyais qu'elle était travaillée par la faim. Bon. Lucie Aubrac était également militante des jeunesses communistes. Elle militait dans le 13e, et un des responsables du 13e, haut responsable, était André Marty. C'est un nom qui me dira quelque chose. Bon, André Marty, en 1952, se trouve pris dans l'engrenage Tillon Marty, et il doit répondre à la commission des cadres. Et on a aux archives de Saint-Denis le texte, la transcription, c'est affreux, on le cuisine, on va chercher les derniers détails enfin, pour prouver qu'il est un flic, et que depuis le début il est un pourri. Enfin, bon, il n'y a pas de tare que n'est pas Marty à ce moment-là. Et parmi ce qu'on lui reproche, on lui dit, mais dis donc, Lucie Bernard, Lucie Aubrac, tu l'as invité à manger chez toi dans les années 30, quand tu étais dans le 13e, sous-entendu, toi, tu as dû fricoter avec elle. Ou et lui dit, c'est extraordinaire, mais ça ne s'invente pas. Ah ben oui, avec les camarades, on était vraiment, on était bouleversés parce qu'on voyait que cette fille ne mangeait pas à sa faim. Donc je l'ai fait venir quelques fois chez moi pour qu'on lui donnait à croûter. Quoi. Bon. Vous voyez, ça c'est intéressant parce qu'elle n'en parlait jamais. Mais je pense que dans la détermination qu'elle montre entre 40 et 44, il y a aussi cette espèce de force incroyable. Pour ne rien dire du fait qu'elle était pupille de la nation parce que son père avait été gravement commissionné en 1915 au point que sa sœur et elle étaient reconnues pupilles, ce dont elle ne parlait jamais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand vous réfléchissez à ça, vous voyez surgir tout un monde qu'on a perdu au sens de Peter Laslett, c'est-à-dire faire un énorme effort pour se remettre dans ce qu'était le quotidien de ces gens. Et c'est vrai que les gens qui composent le CNR, ils ont ça en tête. Essayer de construire quelque chose de mieux. Et comment le faire autrement qu'en proclamant des principes auxquels on peut s'accrocher, s'arrimer. Vous voyez ce que je veux dire? Et en espérant que ça le fera. C'est-à-dire qu'à la libération, il y aura un rapport de force suffisant. Alors, je reviens sur ce qui a été dit de l'unanimité, parce que c'est très important. Non seulement l'unanimité, elle est remarquable, mais vous avez raison, si on compare à d'autres pays, elle est étonnante, parce qu'il y a quand même eu une guerre civile en Grèce. Il y a eu une guerre civile en Yougoslavie. on aurait pu, avec l'histoire politique et la nôtre, avoir une guerre civile en France. Or, on n'en a pas du tout, et même on nous avait prédit une guerre civile entre résistants et vichistes. Parce qu'après tout, quand les résistants se présentent pour prendre une préfecture, on aurait pu y avoir des échanges de coups de feu. Rien de tel, pourquoi? Parce que la résistance a gagné la bataille de Le Pignon. Cette résistance qui est marginale et isolée en 40 est toujours très minoritaire en 44, mais elle est comme un poisson dans l'eau socialement. Et Vichy crève comme une bulle de savon. Il y en a un très bel exemple que j'aime beaucoup, Yvon Moranda. Yvon Moranda qui était un homme important de la France libre et qui avait été un résistant de l'intérieur, a reçu comme tâche en août 44 de libérer Matignon. Ouais, tout de suite, on se dit, ça va canarder. En fait, ils arrivent, sa femme et lui, en vélo dans la cour de Matignon. Posent leur vélo sur la montée des marches, se présentent à l'huissier et disent, nous sommes la résistance, on vient prendre livraison. Il leur dit, entrez. Voilà. Donc c'est ça que ça dit. Et donc oui, vous avez raison pour l'unanimité. Quant à vous, je crois que oui, il faut vraiment comprendre ce qu'était la vie. C'est pour ça que les années d'Annie Ernaux, j'aime beaucoup. Parce que on voit ce monde en filigrane. On voit combien les gens dans les années 40-50, fin 40, début des années 50, s'émerveillaient des progrès qui avaient été faits. Trouvaient que leur niveau de vie était pourtant encore, on jugerait bien moyen, mais finalement trouvaient que les choses allaient s'améliorer. Et eux, ils attribuaient ça beaucoup au Front Populaire, etc. Mais bon, peu importe à qui on l'attribue, ils reconnaissaient cette espèce d'amélioration de la qualité de vie en général. Et ils étaient très sensibles.
Moi, je ne voulais pas poser de questions, je voulais encore une fois vous remercier, mais surtout parce que je fais partie de ces gens qui hésitaient presque à venir à cette réunion en me disant que, oui, après tout, on va être entre gens qui sont d'accord, entre eux, qui connaissent ça. Finalement, je connais le programme de la résistance. Et j'ai découvert que j'ai bien fait de venir parce que j'ai appris plein de choses. Je ne vais citer que deux choses qui me semblent fondamentales et qui sont fondamentales parce que vous avez posé les problématiques d'une manière que j'estime, moi, tout à fait originale par rapport à ce que j'ai déjà entendu et qui me semble pouvoir être utilisée pour comprendre non seulement le passé, mais surtout le présent et l'avenir. En particulier, premièrement, le fait que, la différence qu'il y a entre un programme et un modèle. Ça me semble fondamental, surtout dans les discussions de la place de la politique de nos jours, la perte de confiance dans les organisations politiques, voire syndicales, parce qu'effectivement, je pense qu'on a trop peut-être utilisé la notion de modèle et pas suffisamment de programme, au sens fondamentalement politique, et non pas un ensemble de recettes toutes faites. Voilà. Deuxième chose, et ça me semble tout à fait lié, c'est la manière dont, effectivement, le rapport de force, l'action, la situation, a permis d'avancer dans l'action de résistance pour unir, pour aboutir à quelque chose de fondamentalement politique et intéressant. Et c'est en avançant qu'on a défini tous ces éléments-là. Là encore, je trouve que c'est extrêmement porteur quand on voit les débats politiques qui sont actuellement et où on se bat sur des soi-disant projets, on ferait peut-être bien de tirer des leçons et d'essayer d'avancer plus de cette manière-là. Voilà, donc je vous remercie particulièrement pour ça.
Merci à vous.
Oui, le fait que vous évoquiez la misère, la pauvreté qui était le lot du peuple avant-guerre, peut-être que ma question elle est hors de propos, mais cette misère, elle venait entre autres du fait que dans les familles, et les femmes en particulier, devaient assumer des familles nombreuses qu'il fallait nourrir des enfants, à qui il fallait trouver un avenir. Et est-ce que cette question donc, du contrôle des naissances était complètement prématurée? Est-ce que ma question est complètement
non, votre question,
hors de propos?
Non, elle n'est pas du tout hors de propos, elle est fondamentale. La résistance n'innove pas dans tous les domaines. Les femmes et les hommes de la résistance sont des gens de leur temps. Donc, par exemple, les modèles que moi j'ai repérés en faisant ma thèse, c'est quand même là qu'on approfondit le plus, j'ai rencontré beaucoup, il y en avait encore heureusement envie d'actrices, d'acteurs de ces luttes. Ce que j'ai constaté, c'était quand même une répartition très genrée des rôles. Très. Alors, a fortiori, pour tout ce qui touchait vraiment à l'intime et à la question de la... J'ai jamais entendu parler de ça, jamais. Mais cette question-là. J'ai en revanche, mais sans qu'on me l'ait dit, mais en travaillant beaucoup les archives et en comprenant les choses, mais c'était dit à demi-mot, et eu un certain nombre dans la société clandestine, des gens qui étaient pères, PIRS entre eux, qui s'estimaient, de filles mises enceintes et larguées. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, non seulement il n'y a pas de contraception, mais ben, on a des rapports amoureux pour le coup, c'est bien, et on fait pas face, quoi. C'est-à-dire qu'on retrouve les très vieux schémas, et je peux mettre des noms là-dessus, enfin je ne ferai pas, mais c'est intéressant parce que quand vous travaillez beaucoup, vous finissez par connaître, même s'ils ne s'en rendent pas compte, l'intimité des gens. En travaillant des milliers d'heures, on y arrive. Donc savoir qui aime qui largue qui, enfin ça c'est bon. Et je voyais des comportements qui étaient, mais écoutez, je les voyais, mais moi, 20 ans plus tard, je ne voyais pas les gens de ma génération, y compris militants, d'un grand progressisme dans ce domaine. Vous voyez, je voyais que la manière dont on agissait n'était pas absolument irréprochable, pour utiliser un euphémisme. Donc, il n'y avait, pas ça. Non, y a pas de... Mais en revanche, ce qui m'a le plus intéressé, c'est de constater au fil des entretiens un phénomène sur lequel j'ai écrit un article qu'on peut trouver en ligne, donc c'est facile, qui s'appelle « La résistance, une affaire d'homme, point d'interrogation ». Et si vous tapez mon nom et ça, « La résistance, une affaire d'homme », vous aurez ce petit article que j'ai écrit en 95, donc il y a bien longtemps, au sortir de toute une campagne de collègues de témoignages, où j'avais constaté, je résume à grands traits, que quand j'allais voir des résistants pas connus, si je vais voir les Aubrac, bon, ça c'est connu, et j'interroge l'un et l'autre, mais quand je vais dans les Cévennes, et que j'ai trouvé quelqu'un et que j'y vais. J'ai prévenu, on a pris rendez-vous, moi j'enseigne, donc j'y vais mon jour de liberté, mes heures sont comptées. Donc tout est très organisé. J'arrive, je vous la fais courte, mais il y a, on a préparé ma venue, il y a deux fauteuils, un guéridon, et je m'installe, et c'est l'homme qui s'installe. Toujours. Et on parle, et à un moment donné, l'homme dit souvent, ben, je ne sais pas si c'était 41 ou 42, et j'entends, c'était en 42, la petite avait la scarlatine. Et on se tourne, et là, sur le seuil de la porte, il y a la femme, qui, vous le comprenez, était, dans l'époque de la clandestinité, partie prenante de ce qui se faisait, mais qui ne témoigne pas, d'accord? C'est ce que j'ai appelé en cet article le seuil de la porte. Les femmes agissent et témoignent comme elles sont sur le seuil de la porte. Et dans les peintures de Bruegel l'Ancien, quand vous regardez où sont les femmes, elles sont quasiment toujours sur le seuil de la porte. Elles ont cette place qui leur est assignée. Et du coup, ayant compris ça, j'essayais de temps à autre de demander à la femme de témoigner. C'était très difficile. Parce que ce n'était pas l'usage. Et qu'au fond, la parole de l'homme suffisait. Et il m'est arrivé d'avoir un repas très désagréable avec un très haut responsable communiste exclu, bien entendu, début des années 60, dont je savais grâce aux archives que sa femme était une place essentielle de l'IB Sud que je travaillais. Et elle a porté les plats, demandait si j'avais assez de sel, etc. Bon, enfin, au bout d'un moment, je lui dis, mais vous, madame, rien. Un rideau. Pas un mot sur ce qu'elle... Cette femme était vraiment une pièce essentielle du dispositif. Donc vous voyez, c'est intéressant, il y a aussi un processus d'autocensure qui joue. Et puis il y a un dernier point, on dit souvent qu'elles sont représentées dans l'économie de la reconnaissance, dans les médailles, etc. Vous savez qu'il y a une distinction qui s'appelle la carte de volontaire de la combattant volontaire de la résistance. Et bien il y a une femme qui a fait une thèse sur sur ces commission qui délivrait les cartes de combattants de notre résistance, elle a donc eu accès aux archives dans les années 50. Enfin, plus tard, mais elle a consulté les archives des années 50 et elle a trouvé pas mal d'exemples où une femme posait une demande de carte de combattants volontaires de la résistance et la commission disait le plus tranquillement du monde, c'est pas la peine, son mari l'a déjà. Il y a dit non, c'est pas à mal, vous voyez, c'est ça qui est. Donc non, la résistance n'a pas réinventé ces rapports-là. En revanche, le courage que certaines femmes ont montré en a imposé à beaucoup d'hommes. C'est-à-dire ça a quand même changé leur regard. Celui qui m'a le plus étonné dans ce point, c'est Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant, qui n'était pas du tout un misogyne, enfin, qui était un homme très très fin, intelligent, et qui très tôt avait compris que les rapports pouvaient penser autrement, il était ébloui par le courage physique de Lucie Aubrac. Par exemple, il ne manquait jamais d'en parler, en disant qu'elle avait un courage que lui n'aurait jamais. Mais c'est quand même. Donc il y a des femmes comme ça qui ont en quelque sorte forcé le respect. Mais Lucie Aubrac, dans les années 30, quand elle milite au JC du 13e, et qu'il y a une enquête sur elle de la commission des cadres en 44, on fait témoigner Marty et les autres. Et vous savez ce qu'ils disent? Elle se battait comme un homme. Mais elle ne s'habillait pas vraiment comme une femme. Vous voyez, ça y est, cette espèce, vous retrouvez ça, c'est-à-dire, elle était un peu suspecte, quoi. Qu'est-ce que c'était que cette fille qui tout d'un coup décrochait un marron énorme, enfin bon, ça n'allait pas, ça n'entrait pas dans le cadre tel qu'il était défini. Vous voyez ? Donc votre question est très très juste, et non, de ce point de vue-là, il n'y a à mon sens pas de remise en cause. Il faudra attendre bien après.